le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Soyez les nôtres sur CIT 89,5 FM, Potpourri, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Direct de Hart House, l'Université de Toronto, Canada. Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous écoutez Potpourri, votre magazine de la francophonie. Émission réalisée en partenariat avec Radio France Internationale. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Il est Franco édition 2012. L'ingénieur du son, le capitaine de Vera, en compagnie de Morgan, au microphone, Eric Kader. Pour nous joindre tout au long de cette émission, le 416-946-7000, ou encore sur Twitter, @Potpourrichaud, ou sur facebook.com/Potpourrichaud. Francophonie 2012. Et oui, mesdames, messieurs, bonjour, où que vous soyez à travers la planète. On vous souhaite un bonjour très chaleureux parce que nous sommes presque au printemps. Et si vous n'avez pas changé votre horloge, et bien faites vite, parce que demain, ça risque d'être compliqué pour ceux et celles qui doivent reprendre le travail. Au programme aujourd'hui, en ce dimanche 11 mars 2012, comme à chaque année, le 20 mars, les francophones du monde entier fêtent la Journée internationale de la francophonie. Le thème choisi cette année, c'est « Le français est une chance » et nous en parlerons tout au long de cette émission et tout au long du mois de mars. Nous invitons les francophones, les auditeurs de la région, les internautes, les Twitter et de la région ou partout dans le monde à vous inscrire et aussi à inscrire les événements organisés dans votre région lors de la Journée internationale de la francophonie. Envoyez-nous vos messages à pot.pourri@sympatico.ca. Et aujourd'hui, nous allons justement jeter un regard sur Internet et ses réseaux sociaux, Twitter et dans le collimateur. Tenez-vous bien, Bernard Pivot, le grand amoureux de la langue française, a attaqué TF1 et sa nouvelle émission The Voice. Le dodo déplumé de Jacques Monique à l'île Maurice, détourner l'info pour en rire zone, c'est un nouveau journal sur la toile, sorti cette semaine, qui fait jaser beaucoup de gens, surtout les Mauriciens qui sont en Australie. Francophones d'Amérique du Nord, immigration, assimilation ont-ils leur place ici en Ontario, au Canada? Qui sont ces sapeurs de la langue française en Amérique du Nord? Sont-ils pure laine, tricotés serrés, ou sont-ils des gens venus d'ailleurs? Aujourd'hui, escale à New York, à la rencontre de la communauté sénégalaise. L'Assemblée communautaire françaisquoise, dis-je, a célébré le 25 février dernier son 100e anniversaire. Un petit retour sur cet anniversaire. Quelle est votre définition d'un francophone?
C'est quoi?
Oui, votre définition d'un francophone.
C'est quoi?
Cinéma, hommage à Claude François, 30 ans déjà qu'il nous a laissé. Nous allons entendre quelques grands succès de Clo-Clo à l'émission. Ciné Franco 2012, petit coup d'œil sur les quelques films du plus grand festival des films francophones en Amérique du Nord. Je pense que la patronne, la fondatrice nous écoute, j'ai pas voulu l'appeler aujourd'hui parce qu'elle se repose, elle mérite bien un petit repos de temps en temps. Marceline sera des nôtres la semaine prochaine, mais si jamais elle veut participer, collaborer en direct à l'émission aujourd'hui, le numéro à composer c'est le 416-946-7000. Bien le bonjour à Marceline et toute la gang de Ciné Franco, édition 2012. Et puis, quelle est d'après vous la recette gagnante du cinéma québécois? Monsieur Lazare a raflé presque tous les trophées la semaine dernière, oui. Les dérapages de l'élection présidentielle en France, le cas oblige, on en parle. Le candidat socialiste François Hollande supprimera la mention de race dans la Constitution française. Et puis depuis l'officialisation de la candidature du président Sarkozy le 15 février dernier, ce 11 mars, donc aujourd'hui, se veut un tournant de sa campagne lors d'une grande messe, et oui, qui se déroule actuellement même au moment où je vous parle. Et nous allons essayer de recevoir le président Sarkozy de Sarcolène lui-même dans la deuxième heure, à ne pas rater, madame, monsieur. Et puis la question du dimanche, où se tiendra d'après vous le prochain sommet de la francophonie en octobre 2012? Vous courez la chance de gagner de billets gratuits. Ciné Franco, merci mille fois. Appelez-nous si vous voulez aller au cinéma en notre nom, au nom de Ciné Franco. Où se tiendra le prochain sommet de la francophonie en octobre 2012? Morgane attend votre appel, c'est le 416-946-7000 ou pot.pourri@sympatico.ca. Nos sincères remerciements à tous nos partenaires en notre Ciné Franco, Radio France Internationale et les bénévoles. Oui, bon mois de la francophonie, pot pourri, 25 ans déjà. Clo-Clo, 30 ans déjà, un film est sorti, hein. Ah, ça vous rappelle des souvenirs, mesdames, messieurs? Allez, nous célébrons le mois de la francophonie à notre façon, le pauvre. Très bon succès. Ceux qui sont nés dans les années 60.
Parce sur le nez, dans sa vie, je suis dans ses bras, avec un 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 bras, avec avec plus d'appétit. Qu'un paradis. Je boirai tout le midi, tu ne me retiens pas. Je boirai tout le midi, tu ne me retiens pas. Un décembre, un décembre. Un décembre, on y a mon âme comme son départ.
Messieurs, vous écoutez pour pourri, c'est UT 89,5 FM. Après la Belgique, Monaco et avant Paris et le Maroc, l'équipe du film Clo-Clo a pris ses quartiers au studio de cinéma d'Épinay-sur-Seine. C'est le 49e jour d'un tournage qui en comptera une centaine. Bravo, bravo, bravo. J'espère que ce film sera à Toronto dans les salles de cinéma ici ou au Québec. Vous avez, ces dernières années, Edith Piaf, Françoise Sagan, Coco Chanel, Coluche et Serge Gainsbourg ont eu droit à leur Biographical Motion Picture, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais ce Clo-Clo possède, à notre sens, un atout de taille supplémentaire. Son réalisateur, Florent Emilio Siri, venu du clip vidéo et auteur de 4 longs métrages, il a pour lui une maîtrise incontestable de la narration cinématographique et de son langage. Alors, c'est un film à voir absolument, et l'acteur principal de ce film qui imite élogieusement Clo-Clo, c'est à voir absolument, absolument, madame, monsieur, à ne pas rater Florent Emilio Siri qui termine le tournage d'un film biographique sur Claude François avec Jérémy Renier dans le rôle titre de Clo-Clo et il le joue, il le chante, il le danse avec les Claudettes. Les Claudettes, c'est comme ça qu'on appelle, oui, les Claudettes. Alors, nous étions sur le plateau en exclusivité et cela nous a vraiment plu, oui. Alors, on va parler de Twitter, si jamais cela vous tente, madame, messieurs. Comment on appelle, d'ailleurs, appelle-t-on les gens qui suivent quelqu'un sur Twitter? En anglais, on dit « followers ». Est-ce qu'il y aura une traduction pour « followers » sur Twitter? Parce que même les Français de France utilisent le mot « follower ». Eh oui, moi, je trouve pas ça très français. Et Bernard Pivot, oui, qui a fait une violente sortie contre TF1, parce que lui, il est vraiment le grand champion, le maître de la langue française, et il veut que l'Académie de la langue française s'y mêle. On en parle dans un instant. Je pense que nous avons des gens qui ont réagi la semaine dernière suite à l'émission avec le professeur Eddy Bouraoui, Paris Berber, et je pense que nous avons quelqu'un qui est avec nous au bout du fil, qui n'est pas là. Alors qui peut-être la semaine prochaine sera des nôtres, mais on a eu beaucoup de très très bonnes réactions et on fera un petit retour dans un instant.
Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Afin de faciliter le nettoyage et l'agencement du CGV actuellement en place, nous vous demandons de ne pas monter dans la rame. Merci de votre compréhension.
Ladies and gentlemen, your attention please. Do not get on the TTV already on the platform while cleaning and reorganization are going on. Thanks for understanding.
Señoras y señores, su atención, por favor. Para facilitar el servicio de limpieza y acondicionamiento del CGV estacionado en el andén, les rogamos no suban todavía a los vagones. Gracias por su comprensión.
Si jamais vous organisez une activité dans le cadre du mois de la francophonie ou encore dans le cadre de la journée internationale de la francophonie et vous voulez participer à l'émission spéciale de la semaine prochaine, d'ailleurs nous aurons le privilège et l'honneur d'accueillir la fondatrice de Ciné Franco, la directrice générale de Ciné Franco qui viendra nous présenter en exclusivité la programmation de l'édition 2012. Alors, si vous voulez faire partie, vous voulez aller brancher avec nous après, vous nous appelez au 86 946 7000 ou encore vous nous envoyez un petit message sur Twitter, Facebook ou encore pot.pourri@sympatico.ca. Alors, je pense que nous avons quelqu'un qui sera de l'autre dans un instant, mais pour tout de suite, la francophonie du Canada, oui, ça marche, franchement, s'il vous plaît.
Et le tympan. je lis la lettre. Et le temps passé des fois me dépasse, et me perd dans l'espace des doigts.
Ladies and gentlemen, your attention please. Do not get on the TTV already on the platform while dreaming and reorganization are going on. Thanks for understanding.
Mesdames et messieurs, vous écoutez Popourri CUT 89,5 FM. C'est notre petit jingle de la francophonie 2012. Et on remercie beaucoup tous ceux et celles qui nous envoient des messages. Nous avons, je pense, quelqu'un qui devait passer la semaine dernière pour parler un peu, donner ses commentaires sur le livre dont il a fait une excellente critique, je pense, dans le journal en Tunisie. Il s'appelle Rafik Daraghi et il est éditeur. Il est journaliste, voyageur, et il s'intéresse à la langue française aussi. Et il est actuellement à Paris, il est tunisien d'origine. Bonjour monsieur, comment allez-vous?
Bonjour.
Alors nous avons quelques secondes seulement, parce que je sais que la semaine dernière on vous a raté, malheureusement.
Oui.
Mais vous vouliez absolument, absolument partager, donner votre coup de cœur sur le dernier roman de notre ami, camarade de longue date, professeur Eddy Bouraoui, qui était avec nous à l'antenne. Et vous avez écrit, je pense, un article très intéressant dans la presse tunisienne au mois de novembre dernier à ce sujet, n'est-ce pas?
Oui, je vous remercie. Premièrement, je voudrais rectifier mon nom, ça est Daraghi, pas Daraghi,
Daraghi. Très bien. Monsieur, voilà, je m'en excuse, monsieur.
Deuxièmement, le problème de Paris Berbère, c'est-à-dire qu'il y avait un point que je voulais soulever qui est très, très important, c'est-à-dire que le livre de Eddy Bouraoui, je crois que c'est son dernier ouvrage qui souligne son engagement littéraire, voyez-vous, et c'est surtout sur la perception de la différence, l'autre, l'altérité chez lui. Et dans ce livre qui est magnifique, au-delà de l'histoire elle-même, au-delà de la quête de la vérité, la quête du personnage central, il s'agit évidemment de la recherche de la mère, et où qui recherche sa mère. Et au-delà, il y a ce problème de la perception de l'autre, parce que vous voyez, d'après tout ce qui se passe dans le monde, la perception de l'autre diffère, voyez-vous. À un certain moment, l'autre, c'est le péril, par exemple, chinois, à un certain moment. Maintenant, c'est l'autre, c'est l'islam, le musulman. Et l'arabe. Et la perception de l'autre est très importante. Je ne l'ai pas souligné assez dans mon papier, parce que j'étais limité par la longueur du texte, qui ne devait pas dépasser une page et demie. Mais voilà, il faut dire que la perception de la différence va en s'accentuant actuellement.
Oui.
Et le fossé entre les nations et les civilisations ne cesse de s'élargir chaque jour. Et c'est ça, la perception, Bouraoui l'a ressenti. Le ferment, surtout le ferment religieux, et il l'a dit dans plusieurs articles récemment, dans un journal électronique qui s'appelle Leaders, le ferment religieux rend encore cette perception plus dramatique. Plus dramatique pourquoi? Mais dans la mesure où il élargit le champ de la haine jusqu'à lui conférer une dimension planétaire, voyez-vous. Et c'est précisément ce clivage entre les civilisations, ce phénomène de la décomposition sociale qui se trouve à la base de cette haine qui oppose les civilisations.
Alors, monsieur, je dois vous interrompre parce que nous avons des bruits de fond, je pense, de communication.
Mais maintenant, oui. C'est fini.
Alors, je voulais tout simplement, pour terminer, vous demander la question, parce qu'il faut que les gens aient justement l'occasion de lire les œuvres du professeur Elie Bouraoui. On sait qu'il y a un problème de diffusion dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans certains pays. Il y a des obstacles, il y a des barrières, il y a beaucoup de phénomènes dont on n'a pas le temps d'en parler. Mais nous, un mot pour terminer, afin que les gens puissent aller acheter ce livre et découvrir cet auteur et découvrir ce roman merveilleux, Paris Berbère. En deux mots.
C'est un livre écrit dans un français époustouflant. Il montre que Bouraoui manie la langue française d'une façon extraordinaire et que c'est un livre qui vous tiendra en haleine de bout en bout. Ça, c'est sûr.
Alors, je vous rappelle que nous avons le plaisir et j'espère que nous aurons l'honneur et le bonheur de vous accueillir à notre émission de temps en temps pour discuter justement de ces clivages qui existent dans le monde francophone. On sait qu'il y a eu aussi beaucoup de renouveau dans le monde, que ce soit en Tunisie ou en Algérie ou en Égypte récemment, et vous avez un regard planétaire, je pense, sur l'évolution même.
Voyez-vous, monsieur, Bouraoui, ce qui m'étonne chez lui, ce qui est magnifique, il s'est aperçu que le ferment de la religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, s'accommode mal des valeurs.
Alors, on aura l'occasion,
de la morale sociale.
On fera appel à vous. On fera appel à vous, c'est promis. On pourra parler pendant longuement. Parce que tout au long du mois de la francophonie, on va faire appel d'ailleurs à tous nos amis, nos correspondants. Peut-être vous serez prochainement.
Oui,
on a changé d'heure depuis hier soir, malheureusement. Allez, merci beaucoup.
Je suis heureux de vous avoir connu.
Merci beaucoup.
Vient
de paraître Une quête de vérité, selon un article apparu dans la presse de Tunisie au mois de novembre, l'auteur Rafik Daraji, qui a écrit justement, qui est un très très bel article sur l'œuvre d'Elie Bouraoui, qui était à nos antennes la semaine dernière. On vous remercie encore. Et passez une bonne soirée à Paris. Au revoir.
À vous aussi. Je vous remercie. Au revoir.
Yo! DJ Sky. Ah oui, yo, yo, Gamba. Le propriétaire de tous les dossiers.
Et nous les francophones, avez-vous des problèmes? Dans un instant, nous allons descendre avec les francophones de l'Amérique du Nord. Et aujourd'hui, nous faisons escale à New York avec nos amis sénégalais.
From the roof up, CIUT 89.5 FM, Toronto, presenting the history and evolution of sound. 25 years, and counting, CIUT 89.5 FM, Toronto.
Parole, 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 parole.
chanson. Je pense que nos amis dans le studio adorent cette chanson. C'est la chanson de la langue française aussi, qui a été traduite d'ailleurs en plusieurs langues. On peut l'entendre dans des restaurants italiens ici à Toronto. Et ce que je trouve formidable à Toronto, madame, monsieur, pour ceux et celles qui nous écoutent sur Internet, et même à Montréal, pour les sceptiques,
ouais,
vous pouvez entendre de la chanson française dans certains bistrots, dans certains restaurants anglophones, s'il vous plaît, à Toronto. Je suis sorti cette fin de semaine, et là où j'ai été, on jouait toujours de la musique française. Or, ces gens ne me connaissent pas, ils n'ont pas fait par exprès, je suis sûr. Comme on dit au Québec, c'était pas arrangé avec le garde du vue. Il y a tellement d'expressions que je trouve formidables. Le garde du vue, est-ce que tu sais ce que c'est? Morgane, est-ce que tu sais ce que c'est le garde du vue? Ah, la langue française. Alors, comme à chaque année le 20 mars, les francophones du monde entier vont fêter la journée internationale de la francophonie et le thème choisi cette année, le français est une chance. D'après vous, est-ce que c'est vrai? J'ai trouvé quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, je vais vous demander, Morgane, d'aller jeter un coup d'œil pour voir s'il y a des nouveaux articles sur ce nouveau site qu'un ami, Jacques Monet, qui travaillait jadis à Radio France Internationale, maintenant qui est à l'île Maurice, et il a créé un site qui s'appelle Le Dodo. Vous savez, l'oiseau, le dodo qui n'existe plus. Le dodo déplumé, ça fait référence à Maurice, un oiseau de Maurice, malheureusement, qui n'existe plus. Le dodo déplumé de Jacques Monique, c'est une façon pour lui de détourner l'info pour en rire jaune. Et c'est toutes sortes de jeux de mots, je trouve, cocasses. Je ne sais pas si les Français, les Réunionnais ou les gens d'ici vont toujours comprendre parce que c'est assez caustique comme langage des fois. Mais en même temps, je trouve que c'est formidable. D'ailleurs, il y a beaucoup de journaux papier qui ont disparu de la planète parce que depuis que l'Internet existe, madame, messieurs, croyez-le ou pas, eh ben, que voulez-vous, les gens n'achètent plus, hein, ils vont surfer, ils vont naviguer sur le net pour avoir les renseignements et toutes les nouvelles du monde. Je voulais vous parler de la situation un peu de ces gens francophones en Amérique du Nord. Immigration, assimilation, on leur promet des trésors, du travail. Or, quand ils arrivent ici, malheureusement, pof, on ne reconnaît pas vos talents ou encore votre profession dans votre pays d'origine. Et alors, c'est la galère. Qui sont ces sapeurs de la langue française? Parce que malheureusement ou heureusement, il y en a qui sont très débrouillards et qui se lancent dans toutes sortes d'aventures. Qui sont-ils? Pure laine, tricoté serré, ou sont-ils des gens venus d'ailleurs? Dans un instant, nous allons essayer d'avoir un petit reportage de Radio France Internationale sur les Sénégalais qui ont décidé de monter une émission de radio à New York. Ce qui peut nous étonner en prenant connaissance d'ailleurs du recensement de 1991 sur la situation des franco-américains. Eh oui, en 1991, il y a un sondage qui nous apprend que le nombre de citoyens américains se réclamant d'origine franco-américaine augmente, sans pourtant qu'il y ait eu rapport d'immigration francophone alors que le nombre de francophones va en diminuant. C'est très intéressant. Le Conseil de vie française en Amérique mentionne qu'entre 1980 et 1990, le nombre de locuteurs francophones a décliné de 13% en Nouvelle-Angleterre, mais que le nombre de personnes ayant déclaré une origine française a augmenté de 18%, et ce, en l'absence d'immigration francophone dans la région. Donc, l'augmentation a eu cours dans les 6 États de la Nouvelle-Angleterre, mais elle a été la plus forte à New Hampshire, où 37%, soit le double de l'ensemble de la région. C'est un fait que Manchester a accru ces dernières années son importance en franco-américanie grâce au rayonnement de l'association canado-américaine et au dynamisme de la Franco-American Society. Alors, c'est très intéressant, je trouve, parce que souvent on pense qu'il n'existe que des francophones au Canada. Or, aux États-Unis aussi, il y a des communautés. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français, hein, qui depuis quelques années, là, s'émigrent à Los Angeles, par exemple, à Miami. Je sais, quand on y passe, on les entend. Ce sont des gens d'affaires, ils sont dans la restauration, tout ça. Alors, pour l'instant, madame, monsieur, je vous propose d'aller faire un petit dépaysement Ah oui, il faut parler vacances. Pourquoi pas aller en Guadeloupe avec Georges Brassens, créole. Ah oui, il est créole. Il est créole. Il peut chanter créole. Georges Brassens. Écoutons.
Non, c'est pas tes n'importe qu'en autre. Toute ma cloïté qu'à jouer même note. Pas tes mi, c'est pas fait gien, c'est ça fait gien. Il t'est qu'à monter le bâton. Enfin, il t'est de l'autre, on a dit ça. Non, il t'est de l'amitié solide, l'amitié solide. L'air t'est ton flot, t'es pas coulé. Où t'es pétra dit, comptez-les. Les poissons passés, pas les uns, passés, pas les uns. Capitaine, c'est qu'on les chipale. Yo t'es qu'à écrit en même page. Côté que tout le monde t'est valide, l'amitié solide. L'évangile, yo pas félicita. Pas même en temps, yo c'est pas ça. Mais pas quoi, yo c'est mauvais sein. Yo c'est mauvais sein. Yo t'es qu'à dire non pas vini. A tout la terre pour l'Italie. C'est pour ça nous n'y en telle bride, l'amitié solide. Yo pas t'es mon agromanier. Pas tes docteurs ni ingénieurs, mon qui t'es cabouet j'y raisin, cabouet j'y raisin. Pas comprendre yo t'es ma coumère, pas des filles en l'emmer. Parole vite c'est des paroles vite, l'amitié solide. Les tenis en coutra pas le gars, en tchè yo pas t'es ni des gars. Yo pas t'es ni frère ni cousin, ni frère ni cousin. Mais tout le monde là c'est solidaire, pour prendre bon et mauvais l'odeur, pour boire miel ou bien la vie, l'amitié solide. C'est bon que t'as la tête parole, même les yotés ni bon pétrole, y'a pas des gens mais fait chimin, jamais fait chimin. Et les voyons pas tes baguets, c'est un âme l'idée de la Dieu. Sans envie ta place, la dévie de l'amitié solide. Mange à la douce, il n'est qu'en note. Il faut que moi baille au chaque en note. Balade qui mérite vin, qui mérite vin. Il t'est qu'à monter le bassin. En temps, il était de l'eau, ton édition. Non, il était de l'amitié solide, l'amitié solide.
Et oui, mesdames et messieurs, voilà, c'était notre Georges Brassens créole. Et oui, c'est intéressant aussi de voir comment la langue française peut voyager dans le temps. Et je trouve ça formidable qu'il y ait cette adaptation, que ce soit des chansons, des poésies, des livres, des films traduits en plusieurs langues. Je trouve que c'est ça la beauté et la richesse de la francophonie, n'est-ce pas Morgane? Alors, Morgane qui est ici et qui se débrouille très bien en anglais, et j'espère que vous n'allez pas oublier votre langue française. C'est ça le danger de beaucoup de nos amis francophones du Canada, quand ils veulent à tout prix travailler dans un milieu anglophone, et bien avec le temps, pas eux nécessairement, mais peut-être leurs enfants, deuxième, troisième génération, perdent la langue, et ça devient très compliqué après, hein, pour réapproprier la langue française. Alors, je voulais vous parler de ce site de microblogage Twitter qui vient d'annoncer qu'il pourra désormais bloquer les messages dans certains pays si des lois l'y obligent. Perçu comme une ère de liberté, notamment depuis les révoltes arabes de 2011, la société créée en 2006 prend le risque d'écorcher sa réputation en admettant d'être prête et dorénavant à intercepter certains des tweets. Mise en ligne par 300 millions d'adeptes dans le monde. C'est incroyable. Et oui, justement, Twitter est dans le collimateur. Bernard Pivot a attaqué TF1 et sa nouvelle émission The Voice. à 76 ans, Bernard Pivot n'a rien perdu de sa verve. Adepte des réseaux sociaux et utilisateur assidu de Twitter, vous pouvez aller le suivre, hein, comme vous voulez, @BernardPivot1. Le journaliste aime cette école de la concision. On peut tweeter en respectant notre langue, dit-il. Justement, nous écoutons un magazine, un petit extrait d'un magazine sur Twitter de Radio France Internationale. Te voici.
Combien vaut un tweet? Difficile de le savoir, mais ces messages de 140 caractères ont bel et bien une valeur marchande. Le site de microblogging a conclu un marché avec la société britannique DataShift afin d'exploiter les 250 millions de mini-messages émis depuis 2 ans. C'est tout l'historique du site qui a été vendu à un prix que les deux parties n'ont pas souhaité dévoiler. Mais quel intérêt, me direz-vous, quand on sait que les messages postés sur le réseau social sont en grande partie accessibles à tous? Les sociétés privées y voient une utilité commerciale. Impossible de collecter les tweets, il faut donc avoir accès à la source. Pour ce faire, Twitter a vendu 24 mois de tweets archivés et ordonnés. Un beau pactole à coup sûr. DataShift explique grâce à ces messages pouvoir comprendre et sortir de l'info du bruit ambiant, étudier les sentiments des consommateurs ou encore pouvoir apprécier la vie générale avant des investissements boursiers par exemple. Il s'agira très certainement d'analyser chaque gazouillis pour cibler de la publicité. Ces données, une fois triées selon les besoins, seront ensuite vendues par DataShift à divers clients, des clients qui déboursent déjà entre 800 et 10 000 euros pour obtenir tout type de données de la part de la société britannique. Violation de la vie privée, crient certains. Absolument pas, répond le site américain. Votre profil et les messages sont votre propriété. Oui, sauf que l'utilisateur, pour s'inscrire, accepte des conditions générales qui autorisent le stockage, le transfert et l'utilisation de toutes ces informations. DataShift a beau jeu de se cacher derrière le fait que si le tweet est privé, ils n'y ont pas accès, la ficelle est quand même grosse. On nous vole le tweet, a réagi le directeur du Big Brother Watch Campaign Group, un rassemblement américain qui lutte contre toute forme de surveillance. Nos postes ne sont plus là que pour servir une industrie très lucrative, ajoute-t-il. Cette initiative pourrait en tout cas donner des idées à d'autres sites qui pourraient limiter pour le plus grand déplaisir des internautes soucieux du respect de leur vie privée. Pour éviter de financer le réseau social et de voir vos données utilisées, une seule solution, supprimer purement et simplement tous vos anciens messages.
Après que les poètes ont disparu, le fantôme court encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on n'est pas court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Qui rendent triste fils et garçons.
bourgeois
Arthur, vagabond.
Ça fait 15 ans hein, que Ciné Franco existe, madame, monsieur. 15e édition 2012. Ça s'annonce une programmation très, très intéressante. Et nous aurons la dame, oui, la grande dame du cinéma, madame cinéma, monsieur radio, monsieur francophone, madame francophone, du 23 mars au 1er avril au Tiff Bell Lightbox, 350 rue King Street West, My Little Princess d'Eva Ionesco avec Isabelle Huppert dans la deuxième heure. Et puis nous avons aussi accueilli les Tuches, une comédie avec Jean-Paul Rouve, à ne pas rater la dame, nous envoyer ses commentaires presque sur Twitter, c'est oui. Elle aussi, elle est sur Twitter. Hein. Vous savez, Marceline a des comptes Facebook, Twitter. Incroyable. Elle est très bien organisée, cette dame. Et puis entourée avec beaucoup de bénévoles. D'ailleurs, nous saluons justement la participation de tous ces gens passionnés par le cinéma. Eh bien, côté média toujours, le studio, nous venons d'apprendre que le studio de France Inter à Paris a été brièvement envahi par des manifestants anti-nucléaires qui ont fait irruption pendant l'émission de Stéphane Paoli. Et donc les journalistes étaient invités à quitter les lieux, les manifestants, au moins un jeune homme et une jeune fille à l'écoute de l'antenne, se sont distinctement prononcés pour l'arrêt du nucléaire en ce jour d'anniversaire de la catastrophe de Fukushima au Japon. Très triste anniversaire en effet, ça fait un an déjà. Et le journaliste leur a vainement invité de sortir, quitter immédiatement le studio, mais ils n'ont pas voulu entendre raison. Je ne sais pas comment cette affaire va prendre fin, mais en tout cas, les studios de France Inter, brièvement envahis dimanche par des manifestants anti-nucléaires. Est-ce que nous sommes bien gardés ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un dehors qui nous attend? Et si vous avez une... vous voulez aller au cinéma, justement, aller voir les films, les très beaux films de Ciné Franco, vous nous appelez, madame, monsieur, nous avons plusieurs billets. La réponse de la question, est-ce qu'on l'a? Non. Où se tiendra le prochain sommet de la francophonie? Ça se déroulera au mois d'octobre. Madagascar, l'île Maurice, le Québec, Paris, Tombouctou, New York, Washington, Sydney, Australie, Melbourne... Hein? Montréal? Ouais, Montréal? Ben, Montréal, c'est au Québec. J'ai dit Québec. Alors, vous appelez Morgane, attends, on va te rappeler, madame, monsieur, c'est une façon pour vous de jouer. Même si vous ne gagnez pas, on vous invitera quand même à aller au cinéma avec nous. 86-946-7000 ou sur Twitter, gazouillez, madame, monsieur. C'est le @popourichaud en un seul mot. Ou encore facebook.com/ Pour Pourri Show. Eh oui. 86-946-7000, nous attendons votre appel. Cette fois-ci, monsieur, nous allons à New York brièvement pour entendre nos amis sénégalais. Qui sont-ils? Que font-ils? Brièvement. Te voici.
Francophonie.
Avec vous, Dominique Bayard, bonjour. Nous allons cette semaine à New York, à la rencontre d'une communauté francophone en plein essor, celle des Africains de l'Ouest.
AM Stereo 930, WPAT, Madison, New York City. Peace be upon you.
Monsieur African Time, bonsoir et bienvenue à notre programme African Time, une émission africaine d'information diffusée tous les dimanches de 20h30 à 22h sur WPAT 930 AM. Au sommaire de notre programme.
African Time fête cette année ses 10 ans d'existence. Une longévité qui en dit long sur la présence et le dynamisme des Africains de l'Ouest sur la côte Est des États-Unis. Il serait environ 40 000 à New York. Une estimation, car il n'existe pas de statistiques officielles et les sans-papiers restent inquantifiables. Ils ont leur quartier, Little Sénégal, au cœur de Harlem, leurs habitudes, leurs restaurants, bref, déjà une histoire américaine. Mais qui sont-ils? Comment vivent-ils leur francophonie en milieu anglo-saxon? Eh bien, par exemple, en écoutant chaque dimanche à la radio, le programme en français African Time, il est diffusé sur les ondes d'une radio communautaire, des détails avec Hassan Ba, un animateur interrogé par Mario Cloutier.
C'est devenu une institution dans la communauté africaine. Les gens, on ne peut pas rester une semaine, un week-end, sans passer l'émission. C'est pas possible, ça s'est passé depuis 10 ans et je pense que ça ne se verra pas parce que l'émission elle est là pour durer. Pour les Africains, c'est un besoin, une nécessité pour la communauté africaine. Comme vous l'avez pu voir, le feedback qu'on a, c'est que quand on organise des débats, le téléphone n'arrête pas de sonner, les gens viennent et participent à tout ça là. Et après, même dans la rue, quelquefois, les gens que l'on connaît, ils viennent vers nous et nous dire, voilà, ça a été tel sujet qu'on a abordé, c'était bien ou des trucs comme ça, ou bien même, ils nous font parvenir des publicités. Ils nous font parvenir des publicités, c'est une façon de soutenir le programme et de nous montrer qu'ils suivent, quoi. Et on a, par exemple, des publicités qui nous viennent des Maliens, des Guinéens, partout de la communauté africaine.
Vous définiriez votre émission comme étant une émission faite par des Africains, pour des Africains, à New York?
Effectivement, une émission par des Africains, pour des Africains, qui se veut la voix des Africains au niveau à New York, surtout à New York et dans la communauté, dans les trois États qui entourent New York, comme Connecticut, New Jersey, et à travers les États-Unis également, parce que les gens peuvent suivre l'émission à travers l'Internet. Et tu veux que c'est une émission par des Africains, pour des Africains, la pouvoir des Africains aux États-Unis, c'est plus pour apporter une autre touche à l'information que l'on voit tous les jours, ou qu'on entend tous les jours ici, aux États-Unis. L'Afrique, on n'en parle pas. Alors nous, on s'est fait un truc, on s'est dit, il faut parler de l'Afrique aux Africains. C'est comme ça que cette émission est là, et c'est ce que nous faisons tous les dimanches.
Est-ce que vous vivez...
Vous écoutez Popori.
I'm in love avec un gars qui a la tête comme un chat de canouille. Quand il chante, on comprend pas. Il sonne comme un plat de noix qui bouille. Lui, je l'ai dit, il aime bien ça. Moi, c'est Jacques Brel, je trouve bon. Fait qu'on a mixé tout ça. Du mal tapé du salon.
mesdames et messieurs, on s'excuse. Ça, c'est le nouveau, la nouvelle chanson thème de l'émission Pot-Pourri. Si cela vous intéresse, vous voulez voter pour cette chanson, c'est le 86-946-7000 et on vous invite d'aller au cinéma voir les films de Ciné Franco. Je vous répète actuellement, au moment où je vous parle, on me dit qu'il y a des répétitions générales qui se déroulent au Champ de Mars à Port-Louis, à l'île Maurice, en vue de la commémoration de la fête nationale mauricienne prévue le 12 mars, donc c'est demain, et qui est à la tête de ce grand concert, ma chère Morgane, nul autre que notre ami Percy Iptong, oui, notre collaborateur, correspondant à l'île Maurice, qui voyage à travers la planète pour nous faire découvrir tous ces artistes de l'océan Indien. Il est le seul à le faire. Et bien, il a été demandé par le gouvernement mauricien d'organiser, d'être le producteur, et c'est la première fois qu'on choisit un mauricien. Hein. D'habitude, c'est un français, un allemand, un anglais. Oh. Et là, on a décidé de faire appel au talent de notre ami. Je suis tellement fier de voir qu'un ami de notre groupe soit demandé d'aller organiser. Alors, qui c'est Morgane? Il y a de l'avenir pour vous. Hein? On va envoyer votre nom un peu partout à travers la planète. Et alors, on va essayer quand même d'appeler notre ami tout à l'heure. Mais il m'a dit, peut-être la semaine prochaine, parce que là, tu sais, je suis en pleine répétition. Mon ami, j'ai pas de temps.
From the roof up, CIUC 89.5 FM, Toronto.
Et oui, madame, monsieur, vous écoutez pas pour ici, 89,5 FM, et nous célébrons à notre façon le mois de la francophonie. Nous vous invitons à nous envoyer vos événements, vos activités, pot.pourri@sympatico.ca, ou encore sur Twitter, sur @pourrichaud en un seul mot. Et vous êtes aussi invité à participer à l'émission de la semaine prochaine en collaboration, en partenariat avec Ciné Franco, car la dame qui va co-animer l'émission avec moi, c'est nul autre que Marcel Lynn. Si tu nous écoutes, bonjour madame, et j'espère que tout va bien de votre côté ainsi que votre équipe. Le point de l'actualité internationale et européenne avec Radio France Internationale, que voici.
Louis Bussière.
Et bonsoir si vous nous rejoignez pour ce nouveau journal. Au sommaire, la visite de Kofi Annan à Damas sans effet immédiat sur la situation en Syrie. L'émissaire des Nations Unies et de la Ligue arabe a rencontré le président Bachar al-Assad. Mais sur le terrain, les canons parlent toujours. La ville d'Idlib est notamment la cible de l'armée régulière. À la une également, cet attentat mortel à la grenade au Kenya. C'est une station de bus de Nairobi qui a été visée. Au moins 5 personnes sont mortes dans l'attaque que la police s'attribue aux islamistes somalien Chebab. L'actualité ici de ce dimanche est aussi les manifestations en Russie une semaine après l'élection de Vladimir Poutine au Kremlin. Entre 10 et 20 000 manifestants sont descendus dans les rues hier. Une mobilisation en baisse, nous dira notre correspondante à Moscou. Et puis la mort d'un géant du dessin et de la bande dessinée, Jean Giraud alias Moebius, a succombé à un cancer. Il était notamment le créateur de la série Blueberry. Il avait 73 ans. On débute ce journal par la situation en Syrie où donc malgré la rencontre entre Bachar al-Assad et Kofi Annan, l'émissaire des Nations Unies et de la Ligue arabe, on n'entrevoit aucune issue à la répression sanglante qui rythme le quotidien depuis maintenant presque un an. Bachar al-Assad l'a redit à Kofi Annan, il ne peut y avoir de solution politique tant que ceux qu'il considère comme des bandes terroristes continueront de déstabiliser le pays. Illustration de cette posture du régime syrien, la ville d'Idlib, dans le nord du pays, est la cible de l'armée syrienne. Après plusieurs vagues de bombardements, des transports de troupes sont entrés dans la localité et au moins 80 personnes ont été tuées aujourd'hui à travers le pays. Écoutez le témoignage d'Abdul Omar, cet opposant et militant syrien des droits de l'homme est basé à Londres. Il réagit à l'attaque de l'armée régulière contre la ville rebelle d'Idlib.
Comme nous le craignons, ces derniers jours, d'importantes troupes de Bachar al-Assad se sont massées aux portes d'Idlib. Par crainte d'être massacrées, une grande partie de la population a fui la ville. Mais il y a eu de très nombreuses arrestations, des centaines de personnes jetées en prison. Parmi elles, un enfant de 13 ans et deux de 15. Aujourd'hui, les troupes d'Assad ont utilisé des chars d'assaut T-72 et pas moins de 200 pick-up équipés de mitraillettes. J'ai aussi appris par l'armée de libération que des hélicoptères avaient été utilisés lors de cette attaque et que l'un d'entre eux a été abattu par les rebelles, de même que 6 chars d'assaut. Et cela grâce à des défections dans les rangs de l'armée régulière de Assad. Une trentaine de soldats et 2 chars ont rejoint l'armée de libération et c'est ça qui a permis de détruire 6 chars d'assaut de l'armée régulière.
Le militant syrien des droits de l'homme Abdul Omar, il était joint par Laurent Berthaud. Par ailleurs, toujours sur la question syrienne, les pays de la Ligue arabe et la Russie sont parvenus à un accord hier au Caire. Accord sur un certain nombre de points, notamment sur la nécessité d'une aide humanitaire. Les deux parties ont également convenu que les violences devaient cesser, mais se disent opposées à une intervention étrangère en Syrie. Dans le reste de l'actualité, il s'agit du plus important regain de violence depuis le mois d'octobre dans la bande de Gaza. Les raids aériens de l'armée israélienne ont fait au moins 15 morts dans les rangs palestiniens. Les bombardements ont démarré vendredi et se sont poursuivis hier en riposte à des tirs de roquettes sur le sud d'Israël. Des contacts intensifs étaient en cours hier entre le mouvement Hamas et l'Égypte afin de réinstaurer une trêve tacite avec Israël et mettre fin aux violences, des violences qui pourraient néanmoins durer encore au moins 1 ou 2 jours selon le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak. À la une de l'actualité également ce dimanche, cet attentat au Kenya, attentat à la grenade contre une gare routière de Nairobi. Au moins 5 personnes sont mortes dans l'attaque et une 60aine d'autres sont blessées. Les précisions de Sarah Tisser.
C'est une station de bus qui a été visée ce soir près du quartier d'affaires au cœur de Nairobi. Plusieurs grenades auraient été jetées à l'arrêt de bus de Machakos, selon la police. Un témoin interrogé par l'agence France Presse raconte, lui, qu'il a vu une voiture passer et quelqu'un qui, de l'intérieur, a lancé 3 engins explosifs. Pour l'instant, personne n'a revendiqué cette attaque, mais forcément, les regards ont tendance à se tourner vers les islamistes somaliens Shebab. Depuis que les troupes kenyanes sont entrées il y a 5 mois en Somalie pour combattre les Shebab et soutenir le gouvernement de transition somalien, les insurgés islamistes ont en effet à plusieurs reprises menacé le Kenya de représailles. En octobre dernier d'ailleurs, peu après l'annonce de l'offensive kenyane, 2 attentats à la grenade avaient déjà frappé Nairobi en moins de 24 heures, faisant 1 mort et plus de 30 blessés. Et c'est un jeune Kenyan sympathisant des Shebab qui avait avoué peu après avoir perpétré ces attaques, ce qui lui a d'ailleurs valu depuis une condamnation à perpétuité. Ceci dit, au moins 2 attaques à la grenade avaient aussi eu lieu l'année précédente à Nairobi en 2010 et leurs auteurs n'ont jamais été identifiés.
Précision signée Sarah Tisser. À Brazzaville, c'était il y a une semaine, jour pour jour, la capitale du Congo était frappée par une série d'explosions dans un dépôt de munitions. Explosions qui ont coûté la vie à quelque 200 personnes. Ce dimanche, la ville enterrera ses morts en présence du président Denis Sassou Nguesso. L'accident a également fait plus de 2300 blessés et 14 000 sans-abri. Vous écoutez RFI, il est 4 heures et presque 6 minutes à Moscou, la capitale russe, où entre 10 et 20 000 manifestants sont descendus dans la rue hier après-midi. L'opposition avait appelé à un nouveau rassemblement pour dénoncer les fraudes à la présidentielle remportée dimanche dernier par Vladimir Poutine. Après les manifestations qui ont rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes en décembre et en février, le mouvement de contestation semble quelque peu marquer le pas. C'est ce qu'a constaté Anastasia Alekhine.
La manifestation bat encore son plein, mais Sergueï se dirige déjà vers la sortie.
Je suis resté une heure et là je m'en vais. Ma fille m'attend. Moi, je suis allé à toutes les manifestations, mais plusieurs de mes amis ne sont pas venus. Certains sont partis en dehors de Moscou, d'autres m'ont dit « j'en ai marre ». Bien sûr, il y a une certaine lassitude.
Après les rassemblements massifs de décembre et février, les rangs de l'opposition apparaissent plus clairsemés, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras, c'est ce qu'estime ce militaire à la retraite.
Notre peuple commence à peine à se réveiller. Il est difficile à bouger, mais il faut le bouger. Il faut l'obliger à se lever, il faut lui expliquer ce qui se passe dans cet état. Ça doit être le but principal de toutes ces manifestations.
Le député de Russie Juste, Gennady Gudkov, est l'un des chefs du mouvement de contestation, a été recruté après les législatives contestées de décembre. Il admet que la mobilisation marque le pas mais estime que tôt ou tard, les gens redescendront en masse dans la rue.
Tout le monde doit comprendre que le pouvoir ne nous laisse que la rue. Nous ne pouvons pas aller en justice, nous ne pouvons pas changer de pouvoir par des élections honnêtes. Il ne nous reste que la rue. Et si les gens comprennent ça, ils doivent nous soutenir.
Les responsables de l'opposition envisagent d'organiser une nouvelle manifestation avant l'investiture de Vladimir Poutine au Kremlin le 7 mai prochain. Anastasia Bétio, Moscou, RFI.
Actualité en bref, en Grèce, Georges Papandréou n'est plus à la tête du PASOK. Le dirigeant socialiste et ex-premier ministre a démissionné de ses fonctions à la tête de son parti pour lui permettre d'élire un successeur avant les prochaines élections anticipées. Le ministre des Finances, Evangelos Venizelos, est favori pour prendre les commandes du PASOK. Les élections anticipées se tiendront au plus tôt le 29 avril prochain, mais aucune date définitive n'a été retenue pour le moment. En Slovaquie, en revanche, c'est ce samedi que les électeurs étaient appelés aux urnes pour des élections législatives anticipées. Et selon les premières estimations, les socialistes sont en tête du vote. On ne sait néanmoins pas si le SMER, le parti de l'ex-premier ministre Robert Fico, a obtenu ou non la majorité absolue. Il était un géant du dessin, plus encore qu'un grand nom de la bande dessinée reconnu dans le monde entier. Moebius s'était éteint à Paris hier, il allait avoir 74 ans. De son vrai nom Jean Giraud, il avait créé en 1963 le personnage de Blueberry, personnage de western. Il signa par la suite de nombreux ouvrages de science-fiction. Retour sur un parcours atypique avec Muriel Malouf.
Il est sans conteste l'un des plus grands graphistes et dessinateurs de bandes dessinées, dont l'œuvre vaste et prolixe ne se résume pas à un seul style, d'où son besoin probablement d'utiliser plusieurs signatures. Avec le pseudonyme Gir, il signe les aventures du lieutenant Blueberry qui le rendent célèbre et dans lesquelles il modernise le western dans la bande dessinée. Il contribue aussi avec nombre de dessinateurs de son époque à faire accéder au monde adulte la BD jusque-là confinée à l'enfance. Avec le pseudonyme Moebius, il signe ainsi des illustrations d'une série de livres et de magazines de science-fiction destinés aux adultes. La série Arzak en fait partie et le propulse dans les années 70 sur la scène internationale. Parmi ses collaborations cinématographiques, il participe à la conception graphique du film Alien, le 8e passager de Ridley Scott. Il travaille également avec des dessinateurs japonais. La fondation Cartier à Paris lui a consacré il y a un peu plus d'un an une rétrospective où l'on pouvait voir l'évolution de son dessin de plus en plus épuré et délicat.
Enfin, un mot de football avec la 27e journée de Ligue 1. Après son élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions de l'Afrique Lyonnais, s'est ressaisi dans le choc de la soirée qui l'opposait à Lille. Victoire 2-1 pour les hommes de Rémi Garde.
RFI, la radio mondiale. De Bobigny à Conakry, de Levallois-Tirana, de Pantin à Pékin, la Cora flirte avec le synthé, le Bangra épouse le reggae, les pygmées de Gré ou de Force mettent à la techno et rien n'échappe à la radio mondiale. RFI, aux quatre coins du monde, à chaque heure du jour ou de la nuit, les succès d'hier au rythme d'aujourd'hui, chacun sa route, chacun son chemin.
Bienvenue à la francophonie torontoise, canadienne, du monde entier sur
TIP89.fm.
C'est quoi ?
Francophonie,
c'est quoi ?
Francophonie.
Mais c'est quoi ?
Francophonie.
C'est moi,
c'est toi. C'est parce que je n'aime pas les gens. Mais je suis comme un étoile dans le monde.
Je veux
rejoindre en studio, c'est le 86-946-4000 ou sur Twitter, @popourichaud en un seul mot. Courez la chance de gagner des billets de Ciné Franco tout au long du show. Popourichaud. CIUT 89.5 FM, la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde à 86-946-7000. Nous attendons votre appel. Et oui, mesdames et messieurs, où que vous soyez, d'après vous, quelle est la recette magique gagnante du cinéma québécois, d'après vous? Comment expliquer un tel succès? Je suis sûr que notre amie, la dame du cinéma, Marceline, qui nous écoute, qui nous a envoyé un message d'ailleurs, un petit tweet, casuille, qui trouve ça formidable, à Morgane, seulement, uniquement. Salut Morgane, vous êtes chanceuse. Je pense que vous commencez à faire votre petit chemin, petit bonhomme de chemin. Et oui, il y a des grands événements, des grands projets qui vous attendent, ma chère Morgane. Marceline vous aime et vous salue. Mais pas au capitaine, pas à moi, et pas à ma compagnie. Comment expliquer? On pleure. Ah oui, on est très triste. La fondatrice de Ciné Franco a envoyé un message à Morgane. Uniquement à Morgane, mais pas à nous. C'est pas la vie. Elle a encore un peu de temps pour se rattraper. Hé, 86-946-7000, elle peut le faire en direct. Madame Cinéma, si vous nous écoutez, le micro est à vous. Francophonie.
Mais c'est quoi?
Je sens ça. Mais il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est le mot francophone, Morgane. On leur dit je suis francophone. Est-ce que vous connaissez la francophonie?
Mais c'est quoi?
Et oui, la recette gagnante du cinéma québécois, Philippe Falardeau et son monsieur Lazare se sont sauvés avec 6 trophées au génie, dont ceux de meilleurs films et de meilleures réalisations. Comment expliquer un tel succès? Eh bien, par tradition, le Québec a toujours fait bonne figure à la soirée des génies, les Oscars canadiens, mais depuis 3 ans, avec une récolte de 40 génies sur une possibilité de 67, les films québécois dominent, comme rarement ils ne l'ont fait, et ne laissent que des miettes aux productions du Canada anglais. Que des miettes, eh oui. La domination québécoise a atteint son point culminant jeudi soir au chic Westin Harbor Castle de Toronto, un hôtel très chic. Est-ce que vous y étiez, Morgane? Je ne vous ai pas vu. Je vous ai cherché partout, mais je ne vous ai pas vu. J'ai cherché aussi Marceline, mais je ne l'ai pas vu. Alors, ça s'est passé jeudi dernier. Et les films de la belle province se sont sauvés avec 17 des 24 génies à l'enjeu, avec 6 trophées. Le candidat d'essai aux Oscars, Monsieur Lazare de Philippe Falardeau, a fait office de leader de l'invasion québécoise.
D'ailleurs, je vous rappelle qu'en 2011, Incendie de Denis Villeneuve avait aussi tout raflé avec 8 prix. Son plus féroce rival avec 7 à génie était Barney's Aversion, un film canadien-anglais ayant ironiquement été tourné en majeure partie à Montréal et en Estrie, au Québec. Même scénario en 2010, alors que c'était une fois Polytechnique, une autre réalisation de Villeneuve, qui repartait avec la plus grosse part du gâteau, soit 8 trophées. L'hégémonie québécoise, c'est même des malheureux au sein de la confrérie, même s'il a des entrées à Cannes et qu'il a récolté des éloges partout où il est passé, le jeune cinéaste Xavier Dolan n'a récolté qu'un seul génie depuis le début de sa carrière, le prix Claude Jutras, remis au cinéaste ayant représenté la meilleure première œuvre. Rappelons d'ailleurs que c'est le film Un zou la nuit de Jean-Claude Lauzon qui détient le record pour le plus grand nombre de génies remportés en une édition. 13 trophées. Eh oui.
Fernando Farao est un auditeur portugais qui nous écrit de Lisbonne pour nous demander le sens de l'expression « le jeu n'en vaut pas la chandelle ». C'est une expression française, bien française d'ailleurs, et assez courante. Cela veut dire qu'il n'est pas très intéressant de faire une chose. Ce qu'on peut y gagner, bah, c'est pas assez intéressant, justement. Surtout si on pense à tout ce qu'on va risquer, ou si on pense à tout le temps, à tout le travail que ça va demander. Pour utiliser d'autres mots, le jeu n'en vaut pas la chandelle, ça signifie ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas la peine au sens propre, hein. Ça ne vaut pas, ça ne mérite pas toute la peine qu'on prend pour faire ceci. Un exemple, partir en vacances en semaine pour avoir une réduction sur le billet de train, bah, c'est moins cher. Seulement ça oblige à prendre un jour de congé en plus, les enfants vont manquer l'école, tout ça c'est bien compliqué. Décidément, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors, on voit bien que l'expression est ancienne puisqu'il est question de chandelles. Les chandelles, on ne s'en sert plus aujourd'hui pratiquement, hein. Il y a quelques siècles, on s'éclairait avec des chandelles, notamment pour jouer aux cartes ou à n'importe quel jeu, hein.
Les gens s'éclairaient.
My little princess.
Yeah.
Un film nommé au César.
Ça s'arrête, c'est pour moi.
Dans la catégorie première d'œuvre.
C'est précieux, tu dis rien de mieux.
C'est aussi en lice pour les meilleurs costumes. My Little Princess de Steven Spielberg, édition 2012. À ne pas rater.
Je te laisse du plus. Tu sais quoi, je sais pas comment tu fais.
Ne ratez pas le plus grand festival. De film international au Canada ou en Amérique du Nord du 23 mars au 1er avril au Tiff Bell Lightbox 350 King Street West, My Little Princess.
C'est son œuvre d'art.
Ils ont vu mes photos, ils ont dit madame, vous allez parler beaucoup trop loin. J'ai besoin de sa mère, c'est un jour. Moi je n'aime pas. Ils ont décidé que j'allais faire plus sa mère. J'ai peur de vouloir te faire partager la vie.
My Little Princess, Deva Ionesco avec Isabelle Huppert. Gagnez des billets de Ciné Franco, édition 2012, 15e anniversaire. Le cinéma francophone à l'honneur à Toronto, du 23 mars au 1er avril. Elle est là, au bout du fil. Bonjour, Madame Cinéma.
Bonjour, Eric.
Comment allez-vous?
Je vais bien, merci, mais il ne faut pas me provoquer comme ça.
Je suis content, je suis content, je suis content. Bravo, ça a marché.
Ça a bien marché. Alors, bonjour à vous, Eric, et bonjour au capitaine aussi. Hein.
Nous, nous sommes en train de visionner vos films. Hein.
Oh, superbe, ça c'est bien.
Ouais, vous avez entendu?
Oui, j'ai bien entendu, effectivement.
C'est un film que vous aimez particulièrement.
Que je trouve fascinant, vraiment fascinant, parce que c'est un film qui dérange, qui met mal à l'aise, et en même temps, esthétiquement, c'est un très beau film. Alors, je l'ai vu, en fait, à Paris, l'été dernier. J'étais avec Joseph, qui est un des membres du conseil d'administration et qui m'aide aussi à programmer des films. et lui a trois petites filles, enfin trois jeunes filles, et il était dans tous ses états à la fin du film, et on a vraiment eu une discussion très passionnée sur ce film.
Mmh.
Et je me suis dit, puisque ça a provoqué tellement d'émotions entre deux personnes déjà, ça va certainement déclencher quelque chose parmi le public.
Et la beauté des images, mais aussi avec l'ouragan Huppert.
Voilà, voilà.
D'ailleurs, ce film a été nommé au César 2012.
C'est exact, c'est la première œuvre d'Eva Ionesco. C'est un film sur sa vie. C'est elle qui a été donc manipulée par sa mère, Irina, et à l'âge de 10 ans, elle a fait des photos érotico-gothiques. Hélas, je ne veux pas vous diriger vers le site, mais parce que ce serait renforcer un petit peu ce côté malsain de l'action de sa mère, mais il faut dire que elle a totalement gâché son enfance et elle parle justement de ce sacrifice par rapport à son enfance, comment, et on voit comment elle est totalement décalée par rapport à ses petites camarades de classe, et comment elle est décalée aussi dans le monde des artistes des années 70.
Nous avons le plaisir, madame, monsieur, d'accueillir madame cinéma Marceline, la fondatrice de Ciné Franco, qui sera notre co-animatrice la semaine prochaine dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie. Nous faisons une pause et puis on vous revient tout de suite, parce que j'aimerais bien que vous nous présentiez les tuches. Dans un instant, ne partez pas.
Très bien. From the
roof out. CIUT 89.5 FM. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week.
From Hart House.
University of Toronto.
Dans ma famille, on est chômeurs de père.
Vous présente l'équipe. Une comédie touchante, réalisée par Olivier Barre.
Alors, on n'était pas les plus riches, mais on est certainement les plus heureux du monde.
Voici donc le tirage complet de ce mardi.
Et ce soir-là, toute notre vie allait changer.
Mais pourquoi ce film est sorti un vendredi 1er juillet? Les Tuches à Ciné Franco, cette année, à ne pas rater.
Je sens qu'on va être heureux.
Écoutez, n'insistez pas, je viens de vous dire, nous sommes en haute saison.
Ne ratez pas la programmation de Ciné Franco 2012, du 23 mars au 1er avril, au Tisbel Lightbox 350 rue Sing Street West.
Naturel, hein, faut pas montrer qu'on
débarque. Pour entrer,
Les Tuches, une comédie avec Jean-Paul Roux.
Ils sont mal parce que là, ils viennent de se séparer avec Solange. Bon, bah, il faut dire qu'à force de renifler une tête des voisines, Solange était une petite des bois.
Non, je suis désolé, vraiment, je ne peux pas vous laisser rentrer. Pardon, mon vivant, j'entends.
Et gagner des billets de Ciné Franco pour aller voir le film Les Tuches.
Il gère rien avec
Mona. Ça n'a pas réussi pas, on dirait. Elle ose le rêve, comme moi.
Il va quand même falloir faire des efforts,
devenir
vraiment.
Et oui, cher Marcel, voilà, j'espère qu'on a mis l'eau à la bouche, comme on dit, pour que les auditeurs se déplacent, se ruent, n'est-ce pas, vers Ciné Franco cette année.
J'espère, parce que nous avons de très bons films, et pour justement fêter la 15e année, on s'est dit, on va essayer d'amener des films qui n'ont pas encore été montrés, ni à Toronto, ni même au Canada, comme par exemple Les Tuches. Alors, Les Tuches, c'est une comédie vraiment hilarante, de cliques qui viennent d'un village, Bouzol, qui n'existe pas d'ailleurs, mais qui montre un petit peu la différence entre vivre heureux, parce que, bon, on est soudés, ils adorent les frites. Vous savez, Jean-Paul Rouve est extraordinaire dans ce film, comme d'habitude d'ailleurs. Il joue ce rôle d'homme bien dans sa peau et qui entraîne des petits gamins à une équipe de football. Il adore être au chômage. Et il embête tout le monde à Bouzol d'ailleurs pour ça. Et il gagne à la loterie, lui et sa famille, et les voilà à Monaco. Alors, le personnage de Madame Tuche est joué par Isabelle Nanty, qui joue très très bien aussi la clouque, en fait, elle ils arrivent et elle admire Stéphane de Monaco, Stéphanie de Monaco. Et dans le film, d'ailleurs, toute la famille et tous leurs invités chantent comme un ouragan ou un ouragan, qui était le tube de l'été 1986 de Stéphanie de Monaco.
Et ce film est sorti un vendredi 1er juillet.
Oui.
Au lieu du mercredi, jour traditionnel des nouvelles sorties sur les écrans français. Pourquoi cette date?
C'est parce que c'était le mariage du prince de Monaco, Albert de Monaco, et on s'est dit, Olivier Barou et sa production se sont dit, ce sera une façon de lancer le film dans un marketing tout prêt déjà, puisqu'il y avait ce gros événement médiatique, sur toutes les télévisions et partout, en fait, voilà.
Alors, en 16 ans, Ciné Franco est devenu le plus grand festival international de films francophones de la ville de Toronto. Est-ce que je m'hasarde un peu sur des terrains glissants en disant que c'est le plus grand festival international de films francophones en Amérique du Nord?
Je ne sais pas. Non, peut-être pas.
On va envoyer nos espions, nos amis, nos camarades, nos collègues d'aller sonder un peu.
Ah, je ne prendrai pas cette responsabilité de le clamer, mais certainement dans le Canada anglophone, oui.
Oui. Ben, en Amérique du Nord,
Bon, allez.
Sans doute au Québec, il doit y avoir quand même beaucoup de festivals de films.
Exactement.
Mais quand je parle dans le monde anglophone, en effet, vous avez parfaitement... Même s'il y a des francophones qui vivent un peu partout dans les États aux États-Unis.
Oui, c'est vrai.
Alors
c'est
peut-être
vrai.
Un jour, on pourra se balader avec un gros camion.
On ne sait jamais. Mais vous savez, j'ai passé un mois à Miami.
Ah oui?
Et il y a un festival du film français à Miami.
Oui.
Petit, hein. Il est petit. Je crois qu'ils avaient une douzaine de films. Des gens passionnés. Je crois que le fondateur et l'opérateur est Patrick Garcia, qui a emmené également ce festival à New York, mais pas, je crois que c'est dans un quartier de New York, je ne me souviens plus lequel, mais il y a quand même une énorme passion pour le cinéma francophone.
Je demande aux gens de nous appeler si jamais vous connaissez un peu les films de Ciné Franco et vous voulez y aller. Alors, il y a des billets grâce au site de Ciné Franco et de CUTFM. Et j'aime beaucoup votre affiche cette année. Il y a un fromage. Et puis, on dit « Film never tasted so good » consommer avec modération. C'est un gros fromage.
À consommer sans modération, justement.
Oh. Et est-ce qu'il y a du fromage, mais il y a du vin et de la baguette aussi, hein?
Ça c'est vrai. Et vous savez ce qu'on va faire cette année aussi, qu'on avait fait les années précédentes, mais on a eu un petit répit. Les étudiants de cinéma de Ryerson nous ont fait des petites variations sur que représentait pour eux Ciné Franco. Et vous allez voir la baguette, le béret, le fromage, c'est vraiment le festival de la nourriture, je dirais, française.
Alors, je rappelle aux gens, la semaine prochaine, nous aurons le temps de passer en long et en large, et en revue. Est-ce qu'on dit ça, en revue, en long et en large?
Et en revue, si vous voulez.
Toute la programmation du Ciné Franco, et entre autres, on ne dévoile pas le mot-clé, parce que je trouve qu'il y a une programmation très intéressante avec l'Office National du Film et l'Institut Français. C'est les grandes figures des cinémas d'Afrique et des Caraïbes. On garde ça pour la semaine prochaine.
Absolument. On va faire ça.
Oui, et je vais apporter un peu d'épices des Caraïbes.
J'aime.
Oui. Alors, vous passez votre menu avec Morgane, parce que Morgane est votre ami.
Oui.
Alors, vous passez votre commande,
oui.
Vous nous dites ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, si vous avez des allergies ou quoi que ce soit. Et s'il y a une ou deux personnes qui aimeraient se joindre à nous en studio, eh ben, ça va être un petit cercle un peu privé. Et comme ça, on va pouvoir avoir une émission sensationnelle. Et puis aussi, vous savez, nous célébrons dans ce mois de la francophonie, pas seulement la langue française à travers le monde, mais aussi Clo-Clo. Je ne sais pas si Clo-Clo vous dit quelque chose.
Oui, bien sûr, Clo-Clo me dit quelque chose. C'est longtemps, là.
Avec Claudette.
je vais vous révéler mon âge comme ça, hein. C'est ça ce que vous voulez, bien non.
Alexandrie, Alexandra.
Oui, c'est ça.
Le téléphone sonne.
Mais oui. Il est parti trop tôt. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors, il y a un film qui est sorti là récemment et qui, j'espère, un jour sera sur nos écrans ici. Mais l'acteur en question limite d'une façon... Mais vraiment, c'est on ne peut pas expliquer comment les gens, au niveau physique, au niveau de la voix, des cadences, des nuances, peuvent faire revivre un personnage mythique au cinéma.
Oui. Mais vous savez qu'il y a eu un autre film qui avait été fait là-dessus sur deux imitateurs. Je n'arrive plus à me souvenir du titre.
Oui.
Imitateur de Claude François.
Mmh.
Et un autre, je ne sais pas si ce sont deux imitateurs de Claude François qui se faisaient bataille et qui en fait leur gagne-pain c'était de se produire comme imitateur de Claude François.
Oui. Ah ben,
je me souviens plus du titre. J'ai le DVD.
La semaine prochaine.
Oui.
Hein? On regarde ça pour la semaine prochaine.
Alors,
j'ai parlé du cinéma québécois, nous avons parlé du cinéma français et maintenant on me dit qu'il y a quelqu'un. Un des candidats à l'élection présidentielle qui est au bout du fil, qui veut absolument passer à notre émission.
Bon.
Et on m'a dit qu'il s'appelle Nicolas Sarkozy. Ça vous dit quelque chose?
Laissez-moi réfléchir.
Là, il faut vraiment qu'on...
Je dois me concentrer parce que tiens, ça me dit quelque chose. Oui, Nicolas Sarkozy.
Alors, je vous souhaite de passer un bon dimanche, bon brunch. Et merci. Préparez-vous, si vous avez besoin de nous pendant la semaine, vous nous appelez, d'accord?
Merci.
Alors,
je vous embrasse tous. Et surtout, vous me gagnez.
Bon.
Tout le monde a la semaine.
Si vous écoutez Popourri CUT 89,5 FM et nous tenons à remercier particulièrement les bénévoles, les amis, ceux et celles qui nous aident chaque dimanche pour réaliser cette émission, entre autres Morgane qui est ici, Marc-André, Tania, Capitaine Devera, Lucie Dufault, et nous remercions aussi tous nos amis collaborateurs qui nous écoutent un peu partout à travers le monde, mais surtout ceux et celles qui collaborent régulièrement à cette émission. Et merci au professeur Eddy Bouraoui qui était là la semaine dernière, c'était magique presque. On a passé de très très bons moments ensemble. Le dérapage de l'élection présidentielle en France, le candidat socialiste François Hollande supprimera la mention de race dans la Constitution française. Le candidat François Hollande a lancé samedi le rassemblement des habitants des Dom-Toms, c'est-à-dire les régions outre-mer, et déploré les discriminations contre lesquelles il a avancé une série de mesures. Et vous savez que ça va mal pour nos habitants, nos amis et frères et sœurs de la Guadeloupe, Martinique, mais aussi de l'île de la Réunion. Il y a eu des échauffourées, beaucoup de gens qui vivent de l'amertume, la vie chère, qui n'ont pas de travail, le taux de chômage est très très élevé. Et je trouve que les sujets de ces pays outre-mer n'ont pas tellement pris place dans la campagne présidentielle. Alors, depuis que Nicolas Sarkozy a annoncé sa participation à l'élection présidentielle, et ben aujourd'hui, il donne une grande messe, tournant de sa campagne sans doute, lors de ce grand meeting avec tous les amis et adeptes de l'UMP. Monsieur Le Pen trouve qu'on a dépensé trop d'argent pour aller chercher les gens à travers la France pour assister à cette réunion d'aujourd'hui. Et donc, Monsieur Sarkozy a dévoilé l'ensemble de son projet pour un second mandat et sa vision de la France qu'il entend laisser en 2017 s'il est réélu. Nous recevons, Madame, Monsieur, le Président Sarkozy lui-même. À vous, Monsieur le Président.
Ce soir, j'aimerais pouvoir. Un petit coup d'humour. J'aimerais pouvoir vous dire à quel point je suis heureux. J'ai pas le droit au bonheur. Vous savez, l'important, c'est les résultats. Et je vais en faire un petit peu en finale. Parce que les Français sont femmes. Je dis tout le temps la vérité. Tout ce que je dis pas, je fais aussi. Vous savez, dans la vie, il y a deux catégories de gens. D'un côté, il y a les méchants, et de l'autre, les nantis. Vous diriez que c'est du côté des méchants ? Eh bien, moi non plus. Et ça, les gens, ils le savent. Alors bien sûr, les Français, qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent, les Français ? je vais vous le dire. Vous pensez que le chef, ils veulent quelqu'un pour gouverner? Que dites les Français veulent quelqu'un pour gouverner? Ça veut dire quoi? Eh bien, je vais vous le dire. Ça veut dire gouverner, avoir réponse à tout. Démonstration de réponse à tout. Moi, j'ai réponse à tout. Démonstration. Si on dit, votre politique est trop sécuritaire. Et moi, je réponds, je préfère me sentir en sécurité qu'en danger.
Francophonie. Marion Urban.
Bonjour à toutes et à tous. Certains d'entre vous le font déjà et en ce moment même, ils écoutent le Francophonie RFI pour apprendre le français. C'est simple et facile, on est chez soi, on écoute les interventions des animateurs pour repérer des expressions. Les professeurs aussi utilisent la radio pour leurs cours. On va en parler.
Écoutez Popori, CIC 89,5 FM. Nous célébrons la semaine de la francophonie du 15 au 23 mars cette année. Et oui, la semaine de la francophonie à Toronto, dans sa forme actuelle, a pris son envol. Et nous avons reçu plusieurs activités ici à notre site, entre autres le 20 mars, bien sûr à 20h, au Lula Lounge. Ne manquez pas Florence K. Mais aussi avec en première partie Madagascar Slim et Donner Roberts de Madagascar, plein feu sur Madagascar cette année en effet. Le 16 mars, voyez l'art autrement, la galerie Thompson Landry, quartier de la distillerie district. Et pour tout savoir, vous pouvez aller sur le site de www.semainafranco.com. Pour tout savoir, dans un instant, nous allons descendre à l'île Maurice avec la fête nationale Salnalena, le plus joli. Et pour nous rejoindre au studio tout au long de l'émission, c'est le 86-946-7000. Nous avons des billets, je vous rappelle, de Ciné Franco. Et participer à notre concours du jour, d'après vous, où se tiendra le prochain sommet de la francophonie? C'est au mois d'octobre. Est-ce en Afrique, quelque part? On vous donne des indices, là. Ou en Amérique du Nord, ou encore le Maghreb. Oui, en Égypte, peut-être, en Maroc, Tunisie, l'Algérie, ou en France, à Paris ou à Londres. Alors, téléphonez-nous, 86-946-7000, si vous voulez gagner des billets pour aller voir des films de Ciné Franco. Alors, je vous rappelle que les répétitions générales pour la commémoration de la fête nationale mauricienne prévue pour demain soir vont bon train au Champ de Mars. Et je pense que nous n'aurons pas l'occasion de parler à notre ami collaborateur et collègue mauricien, Percy Ipton, qui est à la tête de ce grand concert demain soir. Et vu le nombre de personnes sur place, où on nous dit qu'on prévoit plus de 15 000 spectateurs ou même plus, les invités à la cérémonie sont priés d'être présents dès 17h15 demain au Champ de Mars à l'île Maurice à Port-Louis. Il fait très chaud en ce moment, près de 30-32 degrés, chaleur incroyable en ce moment à l'île Maurice. L'arrivée du Premier ministre Navin Ramgoolam est prévue une demi-heure plus tard et à son tour il accueillera le Président de la République, Anirudh Jagannath. J'ai la feuille de route justement devant moi, on nous a invités aussi d'y aller, mais peut-être j'enverrai Morgane parce que je penserai très bien pour elle d'aller rencontrer nos amis mauriciens sur place et représenter la radio CUT, enfin pourquoi pas Morgane. Alors il vous faut 2 jours hein, pour vous y rendre. Alors, je vous rappelle que cette année, il y aura un grand invité d'honneur à la cérémonie, le président James Michel des Seychelles, qui est attendu pour 17h55. Et puis, il y aura plusieurs groupes qui vont défiler, entre autres la Special Mobile Force, SMF, et du groupe d'intervention de la police mauricienne. Un des moments forts de la manifestation sera sans nul doute le spectacle de parachutistes du 2e régiment de parachutistes
parachutiste d'infanterie de marine des forces armées de la zone sud de l'océan Indien. Et puis, il y a 65 artistes. C'est un spectacle conçu, réalisé par Percy Iptong avec une équipe composée de 65 artistes pour traduire visuellement le concept Maurice Île Durable. Ça, je trouve ça formidable. Maurice Île Durable, le thème choisi par Maurice en cette année charnière où elle présente le pays comme un exemple de développement durable au monde. Voici un extrait justement. Levez nos pavillons, levez vos drapeaux si vous préférez, le drapeau mauricien, quatre couleurs. Bonne fête à tous les Mauriciens, hein? Anniversaire d'indépendance, demain. Tous les Mauriciens qui nous écoutent, surtout particulièrement les Mauriciens qui sont dans la région de Sydney en Australie, à Montréal et à Ottawa, ils sont nombreux à nous envoyer des tweets, Francophonie 2012. Nous avons eu beaucoup de plaisir aujourd'hui. Morgane, merci beaucoup d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine. Monsieur Daragi, qui est à Paris. Les nouvelles de Tunisie, les journaux de Tunisie, le critique de l'œuvre de Eli Bouraoui, Paris Berber. Capitaine Devora, merci d'avoir été là. Marc-André, merci mille fois d'avoir conduit ce navire à bon port. Marceline, merci beaucoup, Madame Cinéma. Et merci d'être là la semaine prochaine. Et passez votre commande à Morgane qui attend vos commentaires, mais aussi votre choix de menu pour demain, pour dimanche prochain. Le journal L'Express de Toronto et tous ceux et celles qui ont participé à cette émission de près ou de loin. Je vous souhaite une très bonne semaine de la francophonie. Revenez-nous en pleine forme dimanche prochain dès 11h. D'ici là, bye, au revoir.
ചേരി ചേരി പോകോ സിമ്രം തേങ്ക തേങ്ക തേങ്കോ സിമാജിക്ക് മൂല തീറ്റോ
Chez nous, on dit que ça, c'est la vérité. Et chez vous?
Chez nous, on dit Zapoueli.
Ah ouais, donc c'est toi qui as raison.